Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et oui, on va parler de drones, mais d'une start-up française qui intercepte les drones avec l'IA. Adrien Canter est avec nous. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur et CEO d'Alta Ares, donc vous êtes un jeune entrepreneur passé du droit à la défense. Après le début de la guerre en Ukraine, vous avez fondé Alta Ares en 2024, qui est une start-up spécialisée dans l'interception de menaces aériennes par l'IA. Vous avez levé 50 millions d'euros et vous développez donc des intercepteurs capables de viser drones, missiles et même bombes planantes. Incroyable, on se croirait dans un film. C'est dingue de voir en plus la progression de ce salon ici à Eurosatory par rapport aux années précédentes. Rappelons que Eurosatory, c'est tous les deux ans. Vous étiez là il y a deux ans déjà ou pas?
On était là en tant que, pas exposant, visiteur. Et très inspiré par ce qu'on voyait.
Et là, aujourd'hui, vous êtes acteur de ce salon.
À notre petite mesure, on est encore assez jeune, effectivement, vous l'avez relevé. On n'a que deux ans, mais des ambitions importantes et une équipe qui est réunie autour d'une mission qui est corrélée à ce qu'on appelle la défense solaire. Donc, c'est comment on va venir protéger un espace aérien face à des menaces qui sont de plus en plus importantes dans un champ de bataille qu'on appelle asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a finalement une quantité qui devient une qualité intrinsèque et auquel nos systèmes de défense solaire ne sont pas du tout préparés.
Alors expliquez-nous un petit peu les avantages du drone et ses inconvénients. Parce que justement, vous penchez sur les inconvénients du drone ou ses failles pour les intercepter. Mais c'est quoi les avantages du drone?
Son prix et son autonomie. C'est les deux gros avantages d'un drone en tant que tel. Et ce qui sous-entend finalement d'avoir une réponse qui soit aussi avantageuse en termes de prix et d'autonomie. Et c'est là où...
Parce que si on a une défense qui coûte plus cher, au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. En fait, l'équation ne tient pas la route.
C'est aujourd'hui ce qu'on voit aussi bien au Moyen-Orient qu'en Ukraine, ce qu'on appelle une guerre d'attrition. On va venir épuiser les ressources de son adversaire. Et une fois que ces ressources-là sont épuisées, on va pouvoir prendre la main dessus. Donc tout l'enjeu pour nous, ça va être d'équiper des pays de l'OTAN, mais aussi des partenaires de l'OTAN, de ce type de système pour répondre à cette quantité par une autre quantité. Et c'est là où on vient apporter une expertise aussi bien en termes d'autonomie, mais en termes aussi de quantité pour aussi réduire par conséquent le prix.
Alors, vous avez dit l'avantage du drone, c'est le coût et son autonomie.
Tout à fait.
C'est ça. Aujourd'hui, un drone bien conçu, c'est quoi son autonomie en fait? Il peut parcourir combien de kilomètres tout en restant efficace?
Donc, si on précise, il y a deux types d'autonomie. Il y a l'autonomie en termes de temps de vol ou de distance.
Et l'autonomie.
Et l'autonomie, c'est-à-dire que la place de l'humain dans le processus décisionnel.
Bien sûr, où on n'a pas besoin de le piloter, en fait.
Exactement. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a...
Vous parliez d'autonomie, de cette autonomie-là,
en fait. Tout à fait. De l'autonomie en termes d'intelligence artificielle qui va venir...
Qui se pilote tout seul.
En partie. Il faut, je pense, tordre le cou à une idée répandue que les systèmes autonomes sont aujourd'hui présents. C'est faux. Il y a une place de l'homme qui est importante, c'est-à-dire dans le processus décisionnel. Si on rappelle une mission de défense solaire, elle peut se diviser en trois temps finalement. Il y a le premier temps qui est la phase de détection, donc là c'est avec des données radar. Donc c'est un radar qui va venir détecter ce qui se passe dans le ciel. Puis il y a la phase d'identification, donc c'est là où l'humain va bien confirmer que la cible détectée est une cible à traiter, donc il y a une place de l'homme qui est importante. Et la dernière phase, qui est la phase d'interception, où là il y a un degré d'autonomie qui augmente avec ce qu'on appelle du guidage terminal, qui va venir en fait guider l'effecteur. Donc c'est pas un drone, c'est plutôt une munition de défense solaire, en lui disant d'aller à gauche, à droite, en bas, en haut, et intercepter la cible de manière autonome, en conditions de brouillage, en conditions d'environnement dégradé.
L'IA aujourd'hui ne peut pas dire ce qu'elle voit, si c'est un ennemi ou un ami. Vous disiez que c'était... L'humain qui doit donner cette information.
Confirmé. L'IA fait une suggestion.
D'accord.
Et l'humain va ensuite venir confirmer. Ce qu'on constate aujourd'hui sur la phase de détection, c'est une détection, ce qu'on appelle une détection radar, donc c'est-à-dire des radars qui vont émettre des ondes. Le radar est assez imprécis. Et en fait, on va venir entraîner la performance du radar en captant des données. Et en fait, avec ces données, on va pouvoir établir ce qu'on appelle des patterns, donc en fait des choses qui sont constantes dans le temps. Donc c'est-à-dire attitude de vol, vitesse, hauteur, etc.
Vous nourrissez l'IA avec ça.
Exactement.
En fait,
c'est un processus qui est assez long aujourd'hui et qui demande cet accès à la donnée d'un premier temps, mais aussi cet accès à la réalité opérationnelle. Parce qu'en fait, les systèmes tels que vous voulez déployer ici à Eurosatory, ils sont parfaitement mis en place. Mais quand ils sont déployés sur un théâtre opérationnel, les conditions météo sont peut-être pas aussi agréables qu'ici à Villepinte. Ou alors, il va y avoir un problème de maintenance. Et donc toutes ces conditions-là, on ne peut pas les anticiper tant qu'on ne les a pas déployées sur le terrain. Donc finalement, le développement et le déploiement vont de pair pour avoir un système le plus robuste possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Altares essaye, je dis bien essaye, de répondre à cette mission de défense solaire.
On évoquait tout à l'heure les points forts du drone, donc son autonomie et son prix. Quels sont ses points faibles ? Justement, sur lesquels vous capitalisez, puisque vous êtes là pour les intercepter.
Un des points faibles des drones qu'on cherche à intercepter, ça peut être le brouillage. Donc finalement, il y a deux types de brouillage. Il y a le brouillage qu'on appelle de zone GNSS, donc on va venir brouiller en fait sa position GPS, okay, avec des brouilleurs qui vont l'indiquer que en fait, la position n'est pas du tout là où
donc,
il est.
Donc d'un coup, le drone devient aveugle en fait.
Il va plus savoir se repérer. Donc il y a diverses contre-mesures qui permettent au drone de se repérer à nouveau avec ce qu'on appelle la navigation optique. Tous ne sont pas équipés, parce que d'accord. Ça aussi, c'est de lire.
Donc il y a des redondances qui font que...
Ils vont détecter un terrain, ils vont reconnaître qu'en fait, il y a un point particulier du terrain qui va leur permettre finalement de...
se repérer.
Exactement. Donc là, c'est un premier point. Le deuxième type
donc
de...
Donc là, le brouillage n'est pas efficace, finalement.
Il l'est de temps en temps, pas tout le temps. Et
tout
c'est
dépend
là où...
de la perfection, enfin de la perfection du drone en tout cas
et du brouillage aussi parce que le brouillage il est que d'accord. Sur une zone temporaire okay. Une zone donnée
ah oui parce qu'il va traverser cette zone et après il sort exactement. De cette zone
et c'est là où finalement les drones qu'on intercepte donc drones qui sont principalement de conception iranienne voire russe sont en réalité assez sophistiqués. Ils ont ce qu'on appelle dedans une sorte de petite puce qui s'appelle la puce Cometa et cette puce là va venir détecter plein de signaux GPS différents comme ça si l'un d'entre eux est brouillé ils vont pouvoir se basé sur une autre constellation de satellites.
Donc ça peut être quoi, Galileo, GPS russe, etc.
Exactement, GLONASS, qui est le russe, le GPS américain, etc. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mesures et des contre-mesures. Et celles-ci, elles évoluent au gré du temps. Et il faut toujours être présent sur le terrain pour que ces mesures-là, finalement, soient le plus adaptées à la réalité opérationnelle.
Et alors, comment justement, malgré tout, brouiller tout ça ? C'est intéressant pour vous de faire du reverse engineering ? C'est-à-dire que vous regardez un petit peu ce qu'il y a sur les drones ennemis. Vous les décortiquez pour essayer de comprendre comment ils font ou c'est plus compliqué que
ça ? C'est un peu plus complexe. Nous, c'est pas notre cœur de métier de faire du brouillage. Il y a d'autres sociétés françaises d'accord. Ici qui le font très bien d'ailleurs, auxquelles je transmets mes amitiés. Nous, de notre côté, on va plutôt essayer de comprendre comment ils vont venir déjouer finalement cette zone de défense. Et c'est-à-dire que nous, ce qu'on a pu voir, c'est que certains des drones russes type Shahed font ce qu'on appelle des manœuvres d'évitement. Ils vont mettre à l'arrière des petits capteurs qu'on appelle des capteurs LIDAR, comme des caméras de recul. Soit de véhicules que vous avez,
oui.
Et ils vont venir, dès qu'ils vont détecter un intercepteur qui va se rapprocher de lui, ils vont faire des manœuvres d'évitement. Et là, tout l'enjeu, ça va être d'éviter d'apprendre ces manœuvres d'évitement pour que le drone puisse être intercepteur, puisse être lui-même guidé vers la cible et l'intercepter pour que la mission soit un succès, ce qui est rarement le cas. Je pense que c'est aussi un constat qu'il faut noter. La mission de défense solaire est assez ingrate parce qu'à la plupart du temps, il y a un taux élevé d'échecs. Et on l'a vu même sur les théâtres d'opération Moyen-Orient avec des systèmes très sophistiqués comme le système Patriot qui parfois n'arrivent pas à intercepter parce que la menace est soit trop véloce, soit au contraire il y a une trop grande quantité donc on ne peut pas tout intercepter.
Donc en fait c'est un jeu du chat et de la souris finalement.
C'est peut-être pas un jeu du chat, enfin peut-être.
Vous voyez ce que je veux dire, c'est que dès que vous mettez en place une contre-mesure ou un système de brouillage, j'imagine que les concepteurs de ces drones qui vont être ennemis vont réagir. En fait, c'est un peu comme l'informatique finalement.
Virus, antivirus.
Non.
C'est un peu la même logique.
On est à peu près dans le même scénario.
C'est un peu la même logique et cette course à l'itération en fait. Finalement, celui qui gagnera la guerre demain, c'est celui qui investit le plus dans l'innovation. Et là, on peut le dire qu'aujourd'hui en France, il y a des moyens qui sont considérables.
D'accord.
Qui sont mis en œuvre par le ministère des Armées pour soutenir cette innovation et faire en sorte qu'on soit toujours finalement le plus au fait de la réalité de la guerre d'aujourd'hui et anticiper de manière la plus possible, enfin la meilleure manière possible, ce que pourrait être la guerre de demain.
C'est passionnant tout ça. Merci beaucoup Adrien Canter, vous êtes le fondateur et CEO d'Altares, présent ici à Eurosatory. Merci et beaucoup et bon salon.
Merci à vous.
Voilà.